Bonjour Jean-Yves Le Borgne.
Bonjour.
Pendant près de 2h30 hier à Beyrouth, au Liban, Carlos Ghosn s'est employé à démontrer qu'il n'était coupable d'aucun des faits qui lui sont reprochés par la justice japonaise. D'abord un long exposé avec un certain nombre de documents présentés, puis une longue séance de questions-réponses avec la presse qui avait été invitée. Alors évidemment, vous êtes son avocat, vous avez sans doute un avis un peu partisan, mais pour vous, son objectif est-il atteint ?
Écoutez, moi, ce qui m'a marqué dans cette longue séquence médiatique, c'est ce que j'appellerais le cri du cœur. Je ne sais pas si c'est un sentiment partagé, mais à mon avis, il devrait l'être. On avait l'impression d'un homme qui, d'abord, était d'une vraie sincérité et qui avait un besoin de clamer son innocence. Alors, il y a eu le moment où il a tenté de démontrer son innocence. Je suis pas sûr que ce moment-là ait été suffisant pour qu'on comprenne la portée, notamment des documents auxquels il se référait et qu'il montrait sur un écran. Mais ce qui m'a paru évident, c'est qu'il avait été frustré pendant de longs mois d'une expression et d'une réaction à l'égard de ce qu'on lui reprochait, et que là, il fallait absolument que ça explose.
Ces documents dont vous parlez, ils ont été projetés derrière lui, sur un écran. Que l'on ait regardé cette intervention depuis chez soi sur une télévision ou qu'on ait été présent sur place, il était sans doute assez difficile de les consulter réellement. Il a dit qu'ils seraient publiés, mis à disposition. Est-ce que vous avez des informations sur le délai, par quels moyens, à qui seront-ils adressés ces documents ?
Alors, je n'ai pas à ce jour d'explications très concrètes, très précises.
Oui.
Je m'en tiens au principe, à savoir que ces documents seront communiqués à la presse, de manière à ce que l'examen et la portée de ceux-ci puissent être faits tranquillement dans un bureau. Et effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire qu'hier, c'était difficile au moment où il les présentait, de les analyser et de mesurer leur portée. Mais ce qui, là encore, symboliquement, me paraît intéressant, c'est qu'il a voulu aussi démontrer au fond que ce qu'on lui reprochait était sans portée. Prenons, si vous le voulez, juste un tout petit exemple.
Oui.
Quand on lui reproche certaines commissions qui ont été versées, par exemple à des distributeurs Nissan au Moyen-Orient, il dit... Ce qui est une évidence, on est dans une multinationale, on n'est pas dans une petite PME. Il dit qu'il y a plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines de personnes, qui ont contrôlé les paiements qui ont été faits, qui ont contresigné ces paiements, sans compter ceux qui, après coup, dans le contrôle comptable, en ont eu connaissance et ont pu en mesurer la légitimité. De telle sorte qu'au fond, l'idée qu'il y ait eu des versements suspects, anormaux, sans cause, est quelque chose qu'on a du mal à croire.
Qui cherche-t-il à convaincre Carlos Ghosn dans cette opération ?
Alors...
Parce que c'est quand même intéressant de se poser cette question, au fond, parce qu'il ne va pas convaincre la justice japonaise. Donc, qui cherche-t-il à convaincre ?
Avec la justice japonaise, il y a, disons-le, une sorte de bras de fer dans un silence assourdissant, puisque personne ne veut entendre les raisons de l'autre. Il a pendant plus d'un an essayé de s'expliquer sans aucun succès. Et puis, disons-le, on sait que la justice japonaise ne fonctionne pas comme la nôtre, par exemple, dans une sorte de dialectique d'analyse des documents, la portée des accusations ou des soupçons. La justice japonaise, elle fonctionne à l'ancienne, et même, je dirais, d'une manière complètement désuète, sur l'aveu. C'est pas par hasard qu'il y a 99% de personnes qui sont condamnées parmi ceux qu'on poursuit, et ces 99% ont tout avoué. Il en reste un tout petit volume de 0,4% qui sont ceux qui n'ont pas avoué, mais qui sont condamnés quand même. Lorsqu'on est dans ce système-là, on ne convainc personne. Alors, qui a-t-il voulu convaincre ? Je pense... L'opinion publique, c'est un homme qui n'ignore pas qu'il est un personnage public et que son affaire a appelé l'attention du monde entier, sans compter les conditions dans lesquelles il a quitté le Japon, qui ont encore plus appelé l'attention de l'opinion. Et Je crois qu'il a à cœur de montrer qu'il est un honnête homme, qu'il est le chef d'entreprise que l'on connaît depuis longtemps, et que les éléments de reproche qui lui sont faits par la justice japonaise ne tiennent pas une minute.
Mais est-ce qu'on peut dire que sans procès, il n'y aura jamais d'innocence démontrée ?
Oui, on peut envisager la chose de cette manière. Mais vous savez, entre un procès inique, dont les dés sont pipés dès l'origine, et une absence de procès, quel est le mieux ? Fallait-il qu'il se laisse en quelque sorte découper, sacrifier sur l'autel de la respectabilité de la justice ? On dit toujours que un justiciable doit se soumettre à la justice. Oui, oui, bien sûr, mais ça dépend laquelle. Alors on dit, mais le Japon est une démocratie. Oui, le Japon est une démocratie. Oui, le Japon est un pays moderne. Mais il arrive que dans des pays modernes comme celui-ci ou d'autres, il y ait quelques vieilles traces d'un archaïsme qui ne répond pas aux principes de la démocratie. Je pense que le Japon, pays moderne et démocratique, a encore une justice médiévale.
Deux enquêtes sont ouvertes en France, l'une qui concerne des prestations de conseil conclues avec Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer, l'autre deux soirées au château de Versailles. Carlos Ghosn a dit hier que s'il était convoqué par la justice française, il répondrait à cette convocation. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des enquêtes, c'est un scénario qui vous paraît probable ?
Bah, écoutez, je ne sais pas ce que donneront ces enquêtes. Je pense qu'il faut raisonnablement penser que l'hypothèse d'entendre ces explications entrera un jour dans l'actualité. Alors, à ce moment-là, il y répondra sous quelle forme, de quelle manière. Nous verrons à ce moment-là comment les choses se passent. Parce qu'il y a un problème pour Carlos Ghosn, c'est que, certes, le Liban ne procédera pas à son extradition à la demande des Japonais, la France pas plus, puisque la France, comme le Liban, refuse l'extradition de ses nationaux. Mais le problème, c'est le voyage. C'est que, à partir du moment où il existe ce que tout le monde sait maintenant, ce mandat d'arrêt délivré par les Japonais, qui a été relayé, diffusé par Interpol, c'est-à-dire dans une large part du monde, le voyage présente un danger. Il faudra voir comment on peut assurer l'hypothèse d'un voyage en France et la sécurité de Carlos Ghosn.
Quelle serait la difficulté si c'est prendre un avion d'une compagnie française? C'est au moment du survol.
Mais bien entendu.
Que pourrait-il se passer dans le pire des scénarios de votre point de vue?
Le pire des scénarios. Vous me demandez de faire un effort d'imagination, mais je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais imaginons par exemple que un vol Beyrouth-Paris soit pour une raison quelconque que je n'imagine pas.
D'intempérie majeure.
Voilà, obligé d'atterrir à Istanbul. Qu'est-ce qu'on fait?
Ou un problème technique, etc.
Voilà. Ouais.
Comment vous voyez l'avenir de Carlos Ghosn?
Oh, écoutez, je ne sais pas, c'est un homme qui est, disons-le, une sorte de personnage de roman, d'une manière neutre, je dirais, sans connotation ni favorable ni défavorable, c'est un héros. Il a une vie au sens littéraire du mot, à caractère héroïque. Je ne le vois pas trop dans une petite retraite tranquille.
Dans des pantoufles. Lorsque vous demandez à un homme d'église s'il lui arrive de douter parfois de l'existence de Dieu, il vous répond oui, que naturellement il doute parfois. Si je demande à l'avocat que vous êtes s'il vous arrive de douter de la probité de votre client, qu'est-ce que vous me répondez ?
Écoutez, être avocat, bien sûr c'est défendre, mais c'est aussi envisager toutes les hypothèses. L'analyse doit prendre le pas sur la passion. Et la passion de fidélité est très bien, mais il faut aussi analyser les choses. J'ai procédé, puisque je n'arrive pas dans ce dossier, j'y suis depuis un certain nombre de mois, j'ai procédé à ces analyses, et véritablement, je crois que la thèse qu'il a largement exposée concernant le fait qu'on voulait se débarrasser de lui, et à travers lui, de la politique de gouvernance qu'il portait au Japon, qu'on voulait rejaponiser Nissan, faire échapper cette société à cette sorte de fusion, je mets la fusion entre guillemets, il a d'ailleurs dit lui-même que c'était pas une fusion à proprement parler, je crois que c'est vrai.
Merci Jean-Yves Le Borgne, bonne journée.
Merci.